بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On avait expliqué la dernière fois et le mardi d'avant ça que le jour de Qiyamah, lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam aura déjà intercédé pour que le hisab commence, alors il y aura quatre catégories de personnes. Il y aura quatre catégories de personnes présentes devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous ferons partie d'une de ces quatre catégories de personnes. Plutôt de trois catégories. La première ne nous est pas accessible, mais nous serons présents et nous ferons partie de d'une de ces trois catégories, parmi les quatre catégories. Le premier groupe, ce seront les Anbiya, les prophètes. Donc comprenez que ça c'est un monde à part. Première catégorie, ce sont les Anbiya qui seront ensemble, le jour de la résurrection. Deuxième catégorie de personnes, Allahumma ja'alna minhum, ce sont les mu'minoun, ceux qui avaient iman solide et dont les actions suivaient la foi. C'était des gens, on ne dit pas qu'ils étaient parfaits, mais dont la marge d'erreur était très réduite. C'était des personnes qui en aucun cas n'abandonnaient les obligations d'Allah, qu'elles soient faraz, wajib, sunnah, mustahab. Et jamais ils ne s'approchaient de ce qu'Allah Ta'ala avait interdit. Que ce soit haram, même si c'était makruh, ils s'en préservaient. Et si c'était douteux, ils fuyaient le douteux. Comme le prophète m'a dit, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Cette règle à retenir, que lorsqu'il y a quelque chose qui est douteux dans la religion, on ne sait pas si c'est bon ou c'est pas bon, il est mieux de délaisser. Bref, cette catégorie de personnes qui a toujours marché selon cette règle. C'est ce qu'on appelle les as-sabiqoun, hein, les gens, les musulmans qui seront au premier plan. C'est le ayat qu'on avait cité, on ne va pas répéter, le ayat de la dernière fois, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Et quand on regarde dans ce verset précisément, Allah Ta'ala décrit trois catégories de musulmans. Et les trois autres catégories de personnes, ben c'est justement, la deuxième c'est الْمُقْتَصِدُونَ, ceux qui étaient dans le juste milieu. C'était des gens, alhamdulillah, réguliers de leurs actions, mais qui en même temps, ils faisaient parfois des erreurs. Et puis il y a le zalim bin nafsi, celui qui avait iman, mais qui faisait énormément de péchés. Qui faisait énormément de péchés. Et ensuite, il y a les kuffars. Ça, c'est autre catégorie. Ceux qui n'avaient pas iman en Allah, ou qui avaient iman en aucun Dieu, ou qui croyaient en d'autres choses qu'Allah. Et on sait que le jour de Qiyamah, inna dina indallahi l'islam. Allah Ta'ala n'acceptera que le véritable iman de la part des gens qui seront présents. Et lorsqu'on analyse, c'est une petite parenthèse, hein, les trois catégories de personnes citées dans ce verset du Coran, regardez comment il y a une relation directe entre les versets, les différents siparas. Lorsqu'on regarde dans le paradis maintenant, dans le paradis, et juste avant l'accès au paradis, Allah Ta'ala là aussi il décrit plusieurs catégories de mu'minoun, des gens, des personnes qui ont iman. On ne parle pas de ceux qui n'ont pas la foi. Hein. Il y a, subhanallah, ça c'est dans les derniers siparas, le verset ne me revient pas à l'esprit tout de suite. Hein, voilà, thullatum min al-awwalin wa thullatum min al-akhirin. Il y a ashabul yamin, il y a al-muqarrabin. Vous voyez donc, là aussi, le jour de la résurrection, lorsqu'il y aura les récompenses, lorsqu'il y aura l'accès au paradis, les musulmans se distingueront en différentes catégories. Et également analyser dans le paradis, j'ai pas l'intention de parler ça, pour ça on n'a pas regardé les versets du Coran, mais qadr Allah, ça nous revient à l'esprit maintenant. Dans le paradis également, lorsqu'on parle des fleuves du paradis, il y a un verset qui explique que les gens ils vont boire du fleuve du paradis, mais il y a un autre verset qui dit qu'une catégorie de personnes vont boire à la source des fleuves. Le verset ne me revient pas à l'esprit, inchallah, je regarde pour la prochaine fois. Une catégorie de personnes, de musulmans, qui se distinguent des autres jannatis. Ils n'attendent pas que le fleuve coule, arrive en bas pour boire, mais eux, ils boiront au fleuve, à la source même. Donc, dans le paradis également, il y a une différence entre quelqu'un qui était vraiment, comme on dit, paraban, 100% de la sunna. Jamais la personne ne délaisse quelque chose pour autre qu'Allah, jamais une personne ne délaisserait une sunnat ou ne délaisserait quelque chose de son dîn, et la personne qui, bon, tant bien que mal, elle essaie de trouver le juste milieu entre sa pratique religieuse et ses occupations, quitte parfois à faire certains sacrifices sur le dîn. Comprenons que Allah Ta'ala sait quel degré de iman on a, quelle catégorie d'action nous accomplissons, et même dans un même saf,
même s'il y a 20 personnes au premier saf qui ont les takbir oula, Allah Ta'ala distingue la personne qui a plus de concentration dans sa salat, la personne qui a plus de dévotion, la personne qui est remplie de sincérité. Donc ça, ce sont des choses qu'Allah seul sait. Et le jour de Qiyamah, c'est là qu'on voit qui était vraiment les meilleurs, qui était ceux qui étaient un peu plus en retrait, et qui étaient ceux qui, malgré leur présence dans la masjid, malgré l'apparence physique, peut-être la barbe, grande barbe, le kafini blanc avec le turban, avec la panoplie, excusez-moi, ce n'est pas péjoratif, mais dont le fond n'était pas réellement comme il le semblait. Parce qu'il ne faut pas se contenter d'une apparence, hein, il faut que l'intérieur aussi soit travaillé. Tout ce qu'on appelle les amal al-qulub, la confiance en Allah, hein, l'absence de superstition, alors l'absence de jalousie dans le cœur, etc. Enfin, plein de choses, les amal, ceux qui sont extérieurs, qu'on fait avec les, ce qu'on appelle, on appelle ça, c'est un peu complexe, amal al-jawarih, les actions accomplies avec les membres, après les amal al-qulub, les actions qui sont faites avec le cœur, et tout ce qui est intérieur, qui n'est pas visible. Mais qui fait, c'est ça qui distingue un musulman d'un autre. D'accord? Parce que la personne qui délaisse, s'immense sa salat, sans remords, ben c'est clair, on comprend quelle est la catégorie de personne. Mais quelqu'un qui est régulier dans sa salat, elle peut être parmi les meilleurs des musulmans, comme intérieurement il peut y avoir des péchés qui en permanence annulent ses bonnes actions. Comme la jalousie, ça c'est un exemple, puisque le mot nous est venu à la bouche. Une personne qui a le cœur rempli de jalousie. Ça veut dire que la jalousie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. Alors, on est, alhamdoulilah, régulier dans nos a'mal, mais à chaque fois que quelqu'un a une ni'amat, on est jaloux. Ah, il a tiré un gros loto, on est jaloux. Ah, il a gagné un bon travail, on est jaloux. Ah, il a marié que tu fais là, mais tu veux marier qu'il est jaloux. C'est-à-dire, dans n'importe quelle situation de la vie, notre cœur est rempli de jalousie. Mais il faut savoir que cette jalousie, c'est un signe de le fait qu'on renie le taqdir. On renie les décisions d'Allah, et cette jalousie a pour conséquence de brûler les bonnes actions qu'on a accomplies. Donc c'est un tout ça. As-sabiquna bil khayrat bi'idhnillah, ce fameux terme de le verset du Coran, cela n'est pas simple à atteindre. Et si les sahaba, ils seront certainement parmi cette catégorie de personnes, on voit quel chemin il y a à faire pour arriver à cette catégorie de personnes. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on a dit c'est toujours 30 minutes, hein. On a un chronomètre maintenant. On va essayer de parler un peu des Anbiya alayhi mussalat wa salam, les prophètes. Quels seront leurs rôles le jour de la résurrection? On connaît quel était le rôle des prophètes sur cette terre, hein, la propagation de la risala, du message, ça c'est clair, d'accord? Maintenant, ces Anbiya alayhi mussalat wa salam, ils ont un rôle essentiel le jour de Qiyamah. Ce seront les premiers êtres humains qui auront la parole le jour de la résurrection. Car Allah Azza wa Jal a promis, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Qu'Allah Ta'ala, il va poser des questions aux envoyés et à ceux qui avaient eu des envoyés. C'est-à-dire qu'il y aura des questions spécifiques pour les prophètes et des questions spécifiques pour la Ummah. Mais pour la Ummah, ça on le savait ça. Mais il y aura des questions spécifiques pour les Anbiya, pour tous ceux qui ont été envoyés vers des peuples, vers des communautés. Alors, les ulama, rahimahumullah, ils disent que lorsque Allah Azza wa Jal parle de su'al, de questions pour les prophètes, comprenons bien que ce ne sont pas des questions à propos de leurs actions. Car les prophètes n'ont pas de mauvaises actions. Ils n'ont pas de péché, mais c'est des questions pour, en guillemets, c'est pas qu'Allah a besoin de s'assurer, mais pour mettre bien à l'évidence, hein, face à la Ummah qui est présente, que ces Anbiya alayhi mussalat wa salam, ils ont fait ce qu'on appelle tablir al-risala. Ils ont propagé leur message. Et le fait que les Anbiya témoignent devant les Umam, devant toutes les personnes présentes au jour de Qiyamah, qu'ils ont accompli leur mission, dans un certain sens, Allah Ta'ala prouve à l'humanité qu'effectivement, il n'y a pas eu une communauté où un prophète n'est pas venu. Il n'y a pas une communauté où il n'y a pas eu un prophète dans cette population, et ces prophètes, ils ont propagé leur mission. Donc personne ne peut se présenter auprès d'Allah Azza wa Jal le jour de Qiyamah et de dire que je n'ai jamais entendu parler de Iman, je n'ai jamais entendu parler d'un Dieu unique. Ça c'est impossible. D'accord? Et le prophète Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il commence ce verset, il dit « Inna Allaha yas'alur rusula amma ballahu » Allah Ta'ala demandera aux prophètes, hein, concernant leur propagation, leur tablir. Et vous êtes conscient qu'il n'y a pas eu un prophète qui n'a pas propagé. Ça c'est clair. D'accord? Et même ce hadith qu'on a peut-être entendu, que le jour de Qiyamah, il y aura un prophète qui viendra avec une personne, deux personnes. Après il y aura la communauté de Hazrat Moussa alayhi salam, une communauté immense. Et puis il y aura la Ummah du prophète qui dépassera tout encore. Et certains prophètes se présenteront auprès du tribunal d'Allah, wa laysa ma'ahum ahad. Il n'y aura personne avec eux. Il n'y a pas une personne qui a accepté le da'wah. Alors, deux choses. Est-ce que ça veut dire que ce prophète n'a pas fait son travail? Na'ouz billah, jamais de la vie. Il a fait la propagation comme tous les prophètes, mais Allah n'a pas écrit hidayah pour ces gens. Deuxième chose, est-ce que ça veut dire que ce prophète n'avait pas le tact et la hikmat pour propager? Jamais de la vie, non plus. Tous les anbiya ont été, les prophètes, ce sont des personnes sélectionnées sur l'humanité. Donc ils ont cette capacité, mais Allah Ta'ala n'a pas écrit la hidayat pour ces personnes. Donc même ces anbiya, et ce sont des prophètes dont on n'a jamais entendu le nom, on connaît qu'Allah a envoyé plus de 124 000 prophètes. Verset du Coran qui dit, « Minhum man qasasna alayka, minhum man lam naqsus alayka ». Certains prophètes, Allah Ta'ala nous a raconté leur histoire, et d'autres prophètes, Allah Ta'ala ne nous a pas raconté. Si je ne me trompe pas, dans le Coran, il fait mention de 25 prophètes. Si je ne me trompe pas. Maintenant, regardez combien de prophètes qui restent. Ça nous fait bien comprendre que depuis Adam, jusqu'au prophète sallam, tous les continents, tous les peuples, que ce soit l'Occident, l'Orient, l'Asie, l'Afrique, quel que soit le continent, il n'y a pas eu un lopin de terre, pas un endroit où, à une époque, il n'y a pas eu un prophète qui est venu. Maintenant, vous allez dire, mais maintenant, alors, après le prophète sallam, depuis 15 siècles maintenant, comment, il n'y a plus de prophète? Est-ce qu'il y a des gens qui pourront dire que, ben oui, on n'a pas entendu parler d'Allah? Non, là aussi ils ne peuvent pas, parce que là, la responsabilité ce n'est plus sur ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sur qui? C'est sur nous. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. On est là pour les gens, d'où l'importance de la propagation du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers toutes les époques. Vous voyez? Alors, non, on ne va pas répéter, alors on va aller un petit peu plus au but, exactement ce qu'on voulait, où on voulait en venir. Le premier prophète qui sera questionné le jour de Qiyamah, ce sera Hazrat Adam alayhi salam. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, là, la dernière fois on avait expliqué quelque chose d'intéressant. On avait expliqué comment pour chaque action, Allah Ta'ala posera une question précise à la personne le jour de Qiyamah. Pourquoi à ce moment précis, tu as fait telle chose? Et là on s'est dit que pour éviter les péchés, on se fixe cette règle. À chaque fois que mon cœur me dit de faire telle chose, à chaque fois que j'ai envie de faire un péché précis, en même temps que je veux faire le péché, si je n'ai pas pu résister au péché, ok, je le fais, mais en même temps que je vais l'accomplir, je prépare déjà ma réponse auprès d'Allah pour ce péché. Et là on se rendra compte qu'il était impossible de répondre d'un péché accompli volontairement, que jamais un être humain ne pourra se présenter auprès d'Allah au jour du Qiyamah et de dire que j'ai regardé cette femme parce qu'elle était trop belle, mais je n'ai pas résisté. Ou alors, j'ai accepté ce contrat malgré que l'argent qui était n'était pas propre parce que j'avais grand besoin d'argent. Sur cette terre, on peut le dire. Mais le jour du Qiyamah, face à face avec Allah, lorsqu'il n'y aura pas de tarjuman, d'intermédiaire ou de traducteur, là, auprès d'Allah, personne ne pourra le dire. Donc, quand on va faire un péché, si on n'a pas pu résister au péché, on se dit que, ok, je le fais, mais tout de suite, je prépare la réponse pour Allah Ta'ala, jour de Qiyamah. Et là, on va comprendre que c'est quelque chose d'impossible. D'accord? Alors, une autre règle qu'on va retenir à partir de ce hadith, c'est les hadiths qui ont l'air assez banal, on a déjà entendu, mais il faut le voir sous un autre angle. Dans un hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, il dit que le prophète a dit, « Awwalu man yud'a yawm al-qiyamah, Adam, fatura'a dhurriyata. » Regardez ce terme-là. La première personne, parmi les êtres humains donc, qui sera appelée le jour de Qiyamah, ce sera qui? Hazrat Adam alayhi salam. Et la phrase qui vient avec, ça marque ça. Elle dit que Adam alayhi salam sera vu, toute sa descendance, tous les êtres humains qui sont nés, qui ont existé, vont voir Hazrat Adam alayhi salam. Toute l'humanité parmi les ins, les êtres humains, ils vont voir le jour de Qiyamah Adam alayhi salam auprès d'Allah Ta'ala, du tribunal d'Allah, et que Allah Ta'ala va interroger Hazrat Adam alayhi salam. Et là, quand on lit ce genre de hadith, on se dit que si Abul Anbiya, Si Abul Bachar, si le père de tous les êtres humains, lui-même n'est pas protégé, lui-même doit se présenter auprès d'Allah, et il y aura, Allah Ta'ala aura quelque chose à lui dire le jour de Qiyamah, ben nous, en tant que simples êtres humains et descendants de Adam alayhi salam, quelle sera notre position le jour de Qiyamah? Alors, Allah Ta'ala dira, Hada abukum Adam. Allah Ta'ala présentera Adam alayhi salam à l'humanité, dit que ça, cette personne, pardon, c'est Adam, votre père. Et là, il va dire, labbaik wa sa'adek, il va dire, labbaik présent au Allah, et Allah Ta'ala va dire, va demander à cet Adam alayhi salam de tirer de sa descendance une partie des gens qui vont aller en enfer. Et là, Adam alayhi salam va demander, Ya Rab, kam ukhrij, oh Allah, quelle quantité de personnes parmi ma descendance, quelle quantité, quelle portion va aller en enfer? Fayaqulu, Allah Ta'ala dira à Adam alayhi salam, hein, akhrij min kulli mi'a 99. Dans 100 personnes, tu enlèves 99. Chaque centaine, tu prends 99, et ces 99 iront dans le Jahannam. Alors, le Prophète sallam, il explique ça aux Sahaba. Comprenez que les Sahaba, ils étaient choqués. Alors, dans une autre riwayat maintenant, ça c'était une version rapportée par Imam Bukhari, il y a une autre version, ça c'est pas Imam Bukhari, Imam Muslim. Allah Ta'ala va dire à Adam alayhi salam, donc c'est à peu près la même chose, et là Adam il demande, mais quelle quantité? Allah Ta'ala va dire dans une autre version, donc, min kulli alf, 999, ça revient pareil. Que pour chaque, yani, sur 1000, tu tires 999 personnes. Alors, et le Prophète me dit qu'à ce moment-là, fadaka hina yushibu sarir wa tadu'u kullu dha. Bon, le Prophète me dit que ça sera lorsque soit la résurrection, lorsque la femme qui attendait un enfant, cet enfant va descendre tellement les gens auront peur. Ça, c'est le verset de Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim. Et certaines personnes seront comme ivres, ils seront comme si ils étaient sous. Wa ma hum bisukara, ils ne sont pas sous ni ivres, mais la punition d'Allah sera terrible. Alors, les sahaba, ils étaient interpellés. Ils ont dit, Ya Rasulallah, hein, ils ne comprenaient pas, mais ils disent que, au prophète d'Allah, ayyuna dhaka rajul. Ils ont dit, mais si sur 1000, il y a un seul qui va au paradis, mais qui sera cette personne? Ils ont fait calme pour eux. Eux-mêmes, ils savent pas ce qu'ils vont aller dans le Jannah ou le Jahannam, malgré le degré de iman que les sahaba avaient atteint. Et là, le prophète sallam, il a dit, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Parce qu'on dit que je fais qassam par celui qui détient mon âme, j'ai cet espoir que Inch'Allah, vous ferez partie du quart des habitants du paradis. C'est-à-dire, cette communauté sera le quart des habitants du paradis. Et là, les sahaba, ils ont dit, فَحَمِدْنَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا. Ils ont dit, Subhanallah, يَا اللَّهُ أَكْبَر. Et le prophète m'a rajouté, je fais qassam par celui qui détient mon âme, j'ai cet espoir, antakounou thulutha ahli jannah, que vous serez le tiers des habitants du paradis. Les sahaba, ils ont fait le takbir encore. Et là, le prophète il a rajouté, walladhi nafsi biyadi inni la atma'u antakounou shatra ahli jannah, j'ai cet espoir que vous serez le jour de Qiyamah, que vous constituerez la moitié des habitants du paradis. Et là, le prophète il a rajouté, innama mathalukum fil umami kamathali sha'ratil bayda fi jild al-thawr al-aswad. Elle dit que si on vous compare aux autres communautés, c'est comme un brin de cheveux blancs sur le dos d'un taureau, donc de couleur noire. Donc pour montrer le nombre, hein, subhanallah, le nombre important de sa communauté le jour du Qiyamah. Donc, comme Hazrat Umar Darin disait, que pour montrer comment doit être l'espoir et la crainte du musulman. Il dit que si le jour de Qiyamah, hein, on disait que sur 100 personnes, il y a 99 qui va au paradis et un seul en enfer, j'aurais cette crainte que ce soit moi cette personne qui va en enfer. Et si on disait que sur 100 personnes, 99 ils vont aller, qu'est-ce qu'on vient de dire, ils vont en enfer, 99 ils vont en enfer et un seul va au paradis, j'aurais l'espoir, le husnul dhann billah, la pensée tellement positive en Allah, tellement une bonne pensée, la confiance qu'Allah est Rahman, clément et miséricordieux, que j'aurai la certitude et l'espoir que ce soit moi cette unique personne qui ira au paradis. Donc à nous de réfléchir, ces sahaba, il se faisait du souci pour savoir si est-ce qu'ils seront parmi les 99 de l'enfer ou cette unique personne du paradis. Alors nous, Mimbab Aula, encore plus qu'on doit se faire, même pas du souci, mais du mauvais sang. Hein, on doit être très logiquement. La seule chose qui devrait nous stresser sur cette terre, nous angoisser sur cette terre, nous faire faire des cauchemars sur cette terre, c'est pas que le baril du pétrole il vient plus cher. C'est pas quand on doit pas avoir peur si ma banque, ses actions chutent et que mes 130 000 euros dans la banque ils sont perdus et que je n'ai plus rien. C'est pas ça qui doit angoisser un musulman. On doit être comme ces sahabas, on doit, mais ça c'est utopique, comme je ne me souviens plus de nos sahabas qui disaient que le soir ils ne pouvaient pas dormir, ils se retournent à droite, à gauche, sur le dos, etc. Ils pensent au jahannam, il a peur. Il a peur du adab de l'enfer, et ça ce sont des gens qui sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des gens qui voient le Coran descendre, qui voient Jibril alayhi wa sallam venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous la forme d'un être humain et apporter le wahi. Des gens comme ça, ils ne peuvent pas s'endormir le soir parce qu'ils ont peur du châtiment de l'enfer. Subhanallah. Alors qu'ils ont eu la promesse d'Allah radiallahu anhu wa radu an. D'accord? Et alors que nous ce soir, certains vont regarder Fiorentina Lyon. Ils vont dormir à 1h30 du matin et ils vont dormir tranquille comme si que c'était des farishta. C'était comme si que ce soir je dors et demain je retourne au paradis. Sans fikar, est-ce que je vais me réveiller fajr? Est-ce que Allah est satisfait de mes actions de la journée? Est-ce qu'il n'y a pas eu un péché de la journée qui pourrait être un hujja contre moi, qui pourrait être la chose qui va me précipiter dans l'enfer? Est-ce qu'il n'y a pas eu une parole que j'ai dite aujourd'hui? Hein, comme le passage me dit qu'un homme, un être humain parfois, un musulman pardon, il peut dire une parole qui est tellement déplue par Allah, qui est tellement déplaît à Allah, tellement détestable, qu'il est au plus haut degré de iman et que cela le précipite au fin fond du jahannam. Nasallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que lorsque le prophète me dit qu'il y a des personnes qui toute leur vie font les actions des Ahl al-Jannah, et avant de mourir, ils font une action des gens de l'enfer, et leur destinée c'est l'enfer. D'où l'importance de lire « Ihdina s-sirata al-mustaqim » « Oh Allah, guide-nous vers le droit chemin ». Ça on l'explique pour la 12e fois. Même vous voyez, ils disent pourquoi un musulman dans la salat dit « Oh Allah, guide-moi, guide-nous vers le droit chemin ». Alors que nous sommes dans le droit chemin, bi-idhnillah, yani, par opposition à Ghayri Maghdoub alayhim wa la dhalin, nous on est dans Sirat al-Mustaqim. Ils disent que quand on demande à Allah de nous guider vers le droit chemin, c'est al-istiqama. Qu'Allah nous garde dans le droit chemin. Rabbana la tuzigh quloubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Demande à Allah de pas en ce sens que nos cœurs restent fermes. Jamais nos cœurs soient détournés. Combien de cas il y a de personnes qui sont dans le din à fond. Bon, enfin, vous voyez quelqu'un et puis des années après vous le voyez, khalas. Il a quitté tout. Hein, il y avait une grande barbe, c'est fini. Namaz, c'est fini. Habillement, c'est autre chose. Subhanallah. On croyait que c'était quelqu'un qui... C'était le plus grand des bousses, vraiment. Et parfois, des paroles, je vous dis franchement, des gens, parfois on entend des choses, de la part des gens, quand des paroles odieuses sont prononcées de la part des gens qui sont éloignés du dîn. Ils disent, ben, de toute façon, ça, il ne fait pas namaz. Ça, de toute façon, il est comme ça. Bon, Allah, il pardonne Ali. Mais on a déjà entendu des gens... Dans le dîn, il y a des choses, na'ouzubillah. Et moi, je parle surtout des paroles à caractère raciste, ça. Ça, c'est des choses qui me touchent énormément. Hein, moi, j'étais témoin de certaines scènes, de certains endroits, parfois dans des lieux de culte même, où des gens disent, c'est espèce comor, là, c'est espèce malgache, là, c'est espèce quoi, il croit, il vient faire la loi ici. Dans Ramadan, j'ai ça, na'ouzubillah. Des paroles comme ça, moi, ça, je peux plus parler. Quand j'entends des trucs comme ça, ça me choque. Je me dis, comment quelqu'un peut venir à Salat, il peut venir, il vient à la maison d'Allah, et il peut avoir de son cœur cette impression que lui, il n'est pas réunionnais comme moi, lui. Lui, c'est un immigré, ou lui, c'est un comme ci, c'est un comme ça. Ça, c'est inconcevable, ça. Moi, ce genre de parole, je dis que na'oud billah, qu'Allah protège ces personnes-là. Hein, parce que Allah Ta'ala, c'est la parole du Prophète, hein, qu'il y a des personnes qui, une parole, il prononce, est tellement détestée par Allah, que cette parole-là fait tomber la personne au fin fond de l'enfer. Alors que c'était quelqu'un de droit, pas avant de le dire. Faire bien attention. Donc, quand ce soir on dort, essayons de dormir avec un peu de crainte d'Allah, taqwa Allah, muraqabatullah, comme ce sahaba qui avant de dormir, il se disait que bon ben, aujourd'hui n'importe quelle personne, vous savez sahaba que le prophète dit que ça c'est quelqu'un du paradis, et un sahaba dit ben je vais voir quelle action il fait, il dit le soir il ne fait pas tahajjud spécialement, il ne fait pas khatm al-Qur'an tous les soirs, et, je ne sais pas moi, il n'y a rien d'exceptionnel dans sa vie, et là au bout de 3 jours, cette personne dit écoute, j'étais venu te voir, c'était pour t'observer. Hein, pour voir quelle action tu fais que le prophète m'a dit que tu fais partie des Ahlul Jannah. Elle dit que moi c'est simple. Avant de dormir, je dis que non, en ce sens, si quelqu'un m'a fait du tort ou quelqu'un a fait quelque chose contre moi, je pardonne cette personne. C'est-à-dire garder le cœur toujours, toujours propre. C'est bien d'avoir les signes extérieurs, la pratique, etc. Mais il faut avoir ce cœur propre. Ça c'est extrêmement important. Ça c'est un peu le test qu'il y a. Purification du cœur, tout ce qu'il y a de mauvais, enlever. Je pense qu'on va s'arrêter à l'inchallah. 25 minutes. Et la prochaine fois, on va continuer un peu avec les Anbiya. On va voir les questions qui seront posées à l'ensemble des prophètes. Et puis une question spécifique, comme il y en a eu pour Adam a.s. Une question spécifique pour Hazrat Isa a.s. Une question spécifique le jour du Qiyamah pour Hazrat Isa a.s. Et ensuite, Allah Ta'ala, il questionnera les Ummat. Mais ça, d'une manière générale, à propos des Anbiya qui sont venus. Et puis on va voir comment Allah Ta'ala va honorer la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en donnant possibilité à cette communauté de témoigner que les autres prophètes, ils ont propagé leur mission. Parce que pour Nuh alayhi salam, par exemple, le hadith on citera par la suite, qu'Allah Ta'ala demandera à sa communauté, est-ce que Nuh vous a propagé, est-ce qu'il a propagé le din? Certains disent que ma ja'ana min bashirin wala nadhir. Elle dit personne ne nous est venu, personne qui nous est venu pour annoncer la bonne nouvelle ou nous mettre en garde. Et là, Allah Ta'ala, et puis Nuh alayhi salam va dire que j'ai des témoins. Elle dit le témoin c'est la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là on demandera mais comment cette communauté peut-elle être témoin alors qu'il n'était pas vivant à ton époque? Vous voyez la logique, hein? Ça c'est pas quelque chose de spécifique à l'Occident au 21e siècle ça. Même dans les textes il y a. Vous croyez que dans le din, ben, on est des bénis, oui, les vrais, les bons, d'accord. Non, wallah. Même ça, quand nous on dit que la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam va témoigner pour moi. Et là on posera la question, mais comment? Ils n'ont pas vécu à ton époque. Comment peuvent-ils témoigner? Donc, ce n'est pas tout qui est accepté. Et là, nous, on a dit que, en ce sens, on dira qu'ils ont eu un prophète. Et dans le Coran, il y avait l'histoire des communautés. Et le prophète leur a annoncé. Et là, effectivement, par rapport à ça, Allah Ta'ala acceptera le shahada hein, de la communauté du prophète. On va voir ça, Inch'Allah, là, la prochaine fois. Qu'Allah Ta'ala nous t'offre de comprendre ces quelques paroles et qu'on ait conscience. S'il y a une leçon, la dernière fois on a expliqué quelle leçon à retenir, si on a une leçon à retenir ce soir, après avoir parlé donc 27 minutes, c'est quoi? C'est qu'on doit se figurer que j'y serai le jour des Qiyamah. D'accord? J'y serai. Regardez, là il y a des gens qui vont au Hajj, il y en a qui vont, il y en a qui vont pas. Est-ce que tout le monde sera présent à la fin d'Arafat? Non. Mais cette haute réunion, cet haute rassemblement-là, ça personne ne le pourra pas. Qu'on ait visa, qu'on n'ait pas visa, que votre passeport soit valide ou expiré, que vous avez eu billet, que vous n'avez pas eu billet, liste d'attente, pas liste d'attente, groupe, pas groupe, ça on y sera, ça. Personne n'y échappera. Soit je serai parmi les muttaqis, soit je serai parmi les musulmans moyens, péché, bonne action, soit parmi les zalim, les nafsis, celui qui a iman, mais qui passait sa vie dans les péchés. Ou alors, qu'Allah nous protège, la quatrième catégorie, c'est les kuffars. Donc on y sera, et toutes ces questions qui seront posées, ben on verra. On va voir Adam alayhi salam et on va voir le cheminement, on va voir comment les étapes vont se dérouler et comprenons bien si Allah Ta'ala il prend son temps, j'allais dire, c'est peut-être irrespectueux, si Allah Ta'ala il s'adresse à Adam alayhi salam, c'est qu'Allah Ta'ala en guillemets il a tout le temps, il a l'éternité, Allah Ta'ala n'est pas pressé de faire Islam. Il y a combien d'êtres humains avant nous? Combien de milliards, de milliards, de milliards? Et vous croyez qu'on attend son tour comme dans une salle d'attente, d'un fauteuil en cuir avec de l'eau glacée, de l'eau chaude, café, thé? Là, wallah, c'est debout, avec le soleil à ce niveau, et ceux qui avaient iman solide, qui avaient les qualités de cette catégorie de personnes, eux seulement, ils seront tranquilles, sous l'ombre du trône d'Allah. Parce qu'ils sauront que si je suis sous l'ombre du trône d'Allah, c'est que Allah, il sait que j'ai quelque chose en moi, et que, inshallah, le reste, ce sera facilité sur facilité. Donc prenons conscience qu'un jour on y sera et qu'on aura à répondre de nos actions. Et avant de dormir ce soir, et à partir de maintenant, si vous le faisiez déjà, alhamdoulilah, faites un bilan de la journée, les bonnes actions comme les mauvaises actions. S'il y a eu des péchés, avant de dormir, faites 2 rakas sur la Tawbah. deux rakat, votre wuzu, deux rakat, demandez à Allah pardon pour les péchés de la journée, et s'il y a eu quelque chose, quelqu'un vous a fait quelque chose, faites ce niyak, oh Allah, quelqu'un m'a vexé, quelqu'un a fait ribal, quelqu'un a dit quelque chose sur moi, ben je pardonne entièrement cette personne. Une petite anecdote, ça on avait expliqué ça hier, de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, tabi'in, très connu, hein, on est en train de parler, il y a du ribal. C'était quelque chose que j'ai lu hier, ça m'a interpellé. Elle dit qu'une personne est venue voir Hazrat Hassan al-Basri. Elle dit, oh imam, hein, il y a des gens qui sont en train de faire ribat sur toi. Il y a des gens là, dans tel endroit, ils passent leur temps à faire la médisance, dire des choses mauvaises sur toi. Hassan al-Basri, qu'est-ce qu'il a fait? Important, quel rang il avait à cette époque? Vous croyez que Hassan al-Basri est parti porter plainte ou il a fait mettre ses gens en prison? Hassan al-Basri, il a préparé un plateau de rutab. Le rutab, c'est des dattes fraîches, d'accord? Et il a fait parvenir ce plateau à ces personnes qui faisaient son ribat. Personne ne reçoit ça de Hassan, alors qu'il déteste Hassan. Hassan, ils comprennent pas c'est quoi. Et Hassan, il va voir ces personnes, il demande maaf. Il dit, je demande des excuses, je n'ai pas les moyens pour vous offrir mieux que ça. Normalement, pour ce que vous êtes en train de faire pour moi, j'aurais dû vous donner plus que ça. Mais ce qui est en ma possession, c'est ces dates-là. Donc ça, je vous le donne de plein cœur. Je reformule le dialogue, hein, c'est pas exactement comme ça. Et ces personnes ne comprennent toujours pas. Et là, il fait comprendre que le ribat que vous êtes en train de faire, alhamdulillah, donc, vous êtes en train de prendre mes péchés. Et je vous suis entièrement reconnaissant de prendre mes péchés et je vous en récompense. Donc réfléchissons bien, chaque parole accomplie, chaque le regard, les yeux, la langue, les gestes, etc. Le cœur, qu'est-ce qu'il pense? Qu'Allah nous pardonne nos erreurs et qu'Allah nous permet de revenir vers lui de jour en jour et d'améliorer nos actions extérieures et le cœur intérieur. Subhanallah. Et puis et autre chose, je ne sais pas, Moli Bagat vous a peut-être dit, les jeunes de Montreuil, que ce samedi dimanche, hein, il y aura un rassemblement. Une nuit à la mosquée. Donc, c'est dans la continuité du RDJ 2008 de Saint-Pierre. Saint-Pierre aussi, ils vont faire. Pas mal de villes, ils devaient faire également. Certains, ils ont fait semaine dernière, Saint-Paul, si je ne me trompe pas, rassemblement des jeunes. Mais là, c'est peut-être à partir de 17 ans jusqu'à 25, 28 ans, 29 ans, comme ça. Donc, le concept, c'est quoi? C'est on se retrouve à la grande mosquée de Saint-Denis. À partir de. Après Assar, on s'installe. Et il y aura programme à partir de Maghreb. Il y aura programme après Isha, il y aura le dîner, et puis programme après Fajr, petit déjeuner, et puis 7h, ce sera terminé. Si quelqu'un a des occupations pour dimanche, il n'y a aucun problème. Hein. Donc 7h sera terminé, et bon, normalement le thème de ce rassemblement, hein, ce sera, ben, justement, sera sur le signe de Qiyamah, mais traité d'une manière qui va concerner un peu plus les jeunes. Donc, s'il y a des jeunes dans notre famille, si on a des frères, soeurs, cousins, etc., ben, il faut s'inscrire auprès de l'ulama de la localité, donner notre nom, et Inch'Allah, essayer d'encourager le maximum de personnes pour y assister. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin.